vous savez très bien que la loi El Khomri, les décrets ne seront pas applicables. Écoutez, moi, on est très loin de ce syndicalisme, de ce parisianisme qui ne nous concerne pas.
Cet après-midi, nous accueillons 12 personnes soudanaises. Le ministère nous demande d'accueillir en urgence ces personnes-là. Donc, au 21 octobre, on sera complet.
Le 23 juillet, on a ajouté la Champagne-Ardenne parce qu'on ne savait pas quoi en faire. C'est comme ça qu'on a conçu cette région.
En plus, en la juxtaposition et à l'empilement de petits matins. La nuit debout, c'est vraiment ça qu'elle peut permettre.
Bonjour et bienvenue dans Une semaine en France. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h pour la dernière fois de l'été pour décrypter les grands sujets de l'actualité nationale. Aujourd'hui, nous reviendrons sur la rentrée politique très agitée de la gauche avec l'entrée en campagne de plusieurs ténors très critiques de la ligne du gouvernement. En deuxième partie d'émission, notre sujet magazine, nous nous intéresserons à ces Français qui font le choix de la vie à la campagne, moins utopistes, plus réalistes que leurs aînés, qui sont ces néo-ruraux aujourd'hui. Mais d'abord, place à la première partie de notre émission. C'est une rentrée en ordre dispersé pour la gauche cette année. Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Cécile Duflot, trois anciens ministres de François Hollande ont annoncé cette semaine leur intention de se lancer dans la course présidentielle. Tous contre le chef de l'État, c'est semble-t-il le mot d'ordre de cette partie de la gauche, pour qui le locataire de l'Élysée aurait renié ses promesses de campagne et abandonné son électorat. Le gouvernement et les soutiens du chef de l'État feront, eux, leur rentrée lundi prochain à Colomiers, près de Toulouse, un bastion socialiste depuis des décennies, tout un symbole pour un pouvoir qui veut afficher une coloration populaire, peut-être pour remobiliser son aile gauche à l'approche des élections. On pourrait aussi mentionner, pour être complet, la rentrée des frondeurs, celle des alliés écologistes du gouvernement, celle de l'aile droite du PS, etc. En fait, derrière ce savant désordre, c'est bien une crise d'identité qui semble couver à gauche. Après un quinquennat difficile, marqué notamment par le passage en force de la loi travail, quel programme pour la gauche? Et surtout, pour quel électorat? La gauche peut-elle encore s'adresser aux classes populaires? Voici quelques-unes des grandes questions dont nous parlerons aujourd'hui. Et nous recevons Rémi Lefebvre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en duplex avec nous depuis Lille et vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Lille 2. Vous avez écrit avec Frédéric Savicky un ouvrage sur le PS, La société des socialistes, aux éditions du Croquant. Nous sommes également en compagnie de Marc-Olivier Padis. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes le directeur des études de la Fondation Terra Nova et ancien directeur de la rédaction de la revue Esprit. Et nous serons rejoints tout à l'heure par Pierre Jacquemin, ancien conseiller de la ministre du Travail Myriam El Khomri, qui publie un livre sur les coulisses de la création de cette loi travail, Comment ils ont tué la gauche, publié chez Fayard. Ma première question s'adresse à vous, Rémi Lefebvre. Moins d'un an avant l'élection présidentielle, un chef de l'État qui est déjà défié dans les urnes par plusieurs de ses anciens ministres, c'est assez unique. Alors, ce qui interpelle, c'est surtout le registre, le ton qui est employé. À entendre les déclarations de Cécile Duflot ou de Benoît Hamon, la gauche aurait trahi, elle aurait renié ses électeurs. Comment en est-on arrivé à ce degré de défiance entre les leaders de la gauche, Rémi Lefebvre?
Bah écoutez, il y a plusieurs éléments qui jouent. Bon, d'abord, on entre dans une phase pré-présidentielle, donc les déclarations de candidature aux primaires qui se multiplient traduisent aussi un jeu politique qui s'emballe avec l'élection présidentielle et des partis politiques, des personnalités qui jouent des cartes personnelles. Mais au-delà de ce jeu classique d'ambition personnelle, je pense que l'état de décomposition de la gauche traduit aussi un malaise identitaire très profond dont vous avez parlé et qui est lié à la politique qui a été menée par François Hollande et les gouvernements Hérault puis Valls depuis 2012, une politique qui déstabilise très fortement, c'est le moins qu'on puisse dire, l'électorat de gauche et qui tourne le dos aux intérêts sociaux des catégories populaires, puisque c'est l'objet de notre émission très clairement, puisque depuis 2012, la politique qui a été menée, politique dite d'offre visant à restaurer la compétitivité des entreprises, a fait donne complètement l'impression de faire l'économie des intérêts sociaux, des milieux populaires, qui avaient pourtant été réaffirmés lors de la campagne de 2012 par François Hollande, qui s'était rendu à Florange, qui avait pointé le monde de la finance, qui avait reconflictualisé le discours de la gauche. Et donc évidemment, ce désarroi, cet échec aussi, puisque ce qui est stupéfiant, c'est que la gauche n'a pas corrigé le tir, la gauche au pouvoir, alors même qu'elle a perdu toutes les élections intermédiaires depuis 2012, alors que le gouvernement Valls est très impopulaire, le président Hollande est disqualifié, eh bien, on a l'impression pourtant que François Hollande et Manuel Valls persévèrent dans cette politique à la fois injuste et inefficace.
Alors, Marc-Olivier Padis, cette défiance de plusieurs anciens ténors du gouvernement peut-elle laisser des traces durables ? Sera-t-il possible de se rassembler ensuite derrière le vainqueur de la primaire socialiste qui se tiendra en principe en janvier prochain, après des propos aussi durs échangés ?
C'est toute la difficulté aujourd'hui de ceux qui veulent se prononcer sur la primaire, c'est-à-dire participer à une primaire, c'est forcément s'engager à se ranger derrière le vainqueur. Et on voit bien dans la candidature d'Arnaud Montebourg, par exemple, la contradiction dans laquelle il est, puisqu'il souhaite se présenter comme candidat, mais il réserve sa réponse sur la primaire, puisque sa stratégie de candidat, c'est d'attaquer François Hollande.
Il n'a pas été très clair, effectivement. On ne sait pas s'il est candidat directement à l'élection présidentielle ou s'il est candidat à la primaire socialiste, il laisse planer le doute, effectivement.
Il ne peut pas être clair, puisque sa ligne, c'est d'attaquer François Hollande, mais s'il participe à la primaire, il sera obligé de s'aligner derrière le vainqueur de la primaire, et aujourd'hui, il n'est pas exclu, malgré toutes les difficultés et les critiques qui sont adressées à François Hollande, que François Hollande remporte cette primaire. Et donc, est-ce qu'une synthèse est à nouveau possible à gauche ? C'est la difficulté. En même temps, on sait qu'une gauche qui irait divisée à l'élection présidentielle serait certaine de gagner. D'où la difficulté, évidemment, du chantage électoral au risque de retour de la droite, qui est extrêmement
chantage
réel.
Au nouveau 21 avril. Hein. Cécile Duflot s'est déjà positionnée contre cet argument, en disant que cette question, finalement, du retour du 21 avril ou de la répétition du scénario d'un 21 avril, c'est un petit peu un chantage et qu'il faut d'abord peut-être se poser les questions du fond.
On voit bien que cette séquence d'ailleurs nous invite à relire un peu ce qui s'est passé à l'époque du 21 avril. C'est-à-dire que la dispersion de la gauche, c'était pas simplement une insouciance, une inconséquence, le fait de ne pas avoir prévu que Jean-Marie Le Pen risquait d'être présent au deuxième tour, mais une réelle division de la gauche, une difficulté réelle de trouver un point d'assise suffisamment commun pour que tout le monde s'accorde sur un candidat.
Alors, Rémi Lefebvre, on pourrait aussi se demander si finalement, vous le disiez tout à l'heure en quelques mots, c'est pas de l'ordre du folklore finalement tous ces affrontements, au-delà du fond effectivement dont on va reparler, mais est-ce que finalement ces questions de déclarations un peu assassines des leaders de la gauche contre François Hollande, ça peut pas être aussi sur un strict point de vue politique, politicienne, hein, sur cette politique politicienne, un coup de billard à trois bandes peut-être pour remobiliser un électorat populaire, quitte à se rabattre ensuite sur François Hollande qui serait qualifié pour le second tour.
Alors écoutez, je sais pas, il y a beaucoup de spéculations tactiques qui peuvent être délivrées. Moi, ce que ça traduit, cette multiplication des candidatures, c'est une gauche qui est en apesanteur sociale et qui est complètement, au-delà des désaccords idéologiques que j'ai pointés tout à l'heure, hein, qui sont réels, qui justifient aussi des positionnements politiques. Mais on a aujourd'hui un syndrome à gauche, qui n'est pas propre d'ailleurs au Parti Socialiste, qui est un syndrome de l'entre-soi, en fait. Hein. C'est-à-dire que on a une gauche politique est composée essentiellement de professionnels de la politique, d'hommes et de femmes qui font carrière en politique, qui perdent un peu la tête avec cette présidentialisation, cette hyper-présidentialisation, ce système aussi des primaires qui donne finalement, qui réduit le coût d'entrée d'une candidature. Tout le monde peut être candidat, donc tout le monde peut avoir sa chance au petit jeu médiatique. Voilà. Et donc, on a une gauche politique qui est repliée sur ses jeux et enjeux propres. Très éloignée, en fait, des groupes sociaux qui sont censés défendre. Et ce mécanisme de professionnalisation, il était aussi intensifié par la présidentialisation. Et donc, on voit finalement se multiplier les candidatures, se multiplier les déclarations d'ambition personnelle. Et ce jeu, ce système fonctionne un petit peu, tourne à vide, en fait. Voilà. Et donc, voilà. Alors, la médiatisation renforçant aussi ce phénomène, on a l'impression finalement d'une gauche très, très éloignée des enjeux réels. Une gauche qui aussi, on l'a vu ces derniers jours avec l'affaire du Burkini, s'empoigne sur des questions qui, à mon avis, ne méritent pas de prendre autant de place dans l'agenda public. Donc, une gauche du déni du réel aussi, du déni du réel social. Et c'est un des problèmes, vous voulez, cette émission est consacrée au milieu populaire. Aujourd'hui, le problème de la gauche, c'est aussi un problème sociologique. Hein. Alors, c'est-à-dire, c'est le problème aujourd'hui de partis qui sont très éloignés des groupes qui sont censés
Justement, Rémi Lefebvre, vous avez consacré un ouvrage au Parti Socialiste, La Société des Socialistes, écrit avec Frédéric Savicky. C'était il y a 10 ans. Vous expliquez que la déconnexion de la gauche avec l'électorat populaire serait évidemment imputable en partie au Parti Socialiste, mais aussi finalement à l'effondrement du Parti Communiste Français et à l'incapacité du PS à se substituer à ce PCF comme représentant des catégories populaires salariées. Alors, le PS aurait peut-être un problème stratégique, un problème tactique, mais il a aussi un problème d'alliés.
Ben, écoutez, oui, d'abord, ce désaveu de la gauche avec les milieux populaires et du Parti Socialiste en particulier est un phénomène très ancien. C'est pas nouveau, ça date pas de 2012. Déjà, lors de la campagne de 2002, Pierre Mauroy avait dit à Lionel Jospin, le mot ouvrier n'est pas un gros mot. Bon, il faut aussi noter que ce problème de la gauche avec les milieux populaires est lié aussi aux transformations, évidemment, des catégories populaires. Hein, on est très, très loin aujourd'hui de l'ouvrier d'usine classique. Aujourd'hui, les milieux populaires se sont précarisés, atomisés, individualisés. Ils ont perdu leur conscience de classe. Et donc, évidemment, le lien symbiotique qui existait entre la gauche et le milieu populaire est beaucoup plus difficile à activer aujourd'hui. Donc, il est un peu facile de uniquement imputer la responsabilité de ce désalignement des milieux populaires avec la gauche à la gauche, même si, évidemment, l'évolution idéologique du PS est en cause. Bon, donc, le problème, c'est que pendant longtemps, il y a eu une espèce de division du travail entre le PC et le PS. Le PS, qui n'a jamais été très ancré dans les milieux populaires, délégué d'un certain point de vue au Parti communiste la fonction de représentation de ces milieux. Le Parti communiste s'est écroulé, il a beaucoup décliné, et c'est vrai que même si une gauche radicale existe toujours en France, on peut pas dire qu'elle représente les milieux populaires. Hein. Quand on regarde, par exemple, le vote Mélenchon, c'est pas un vote de cadres populaires, c'est un vote de fonctionnaires, diplômés, très diplômés, beaucoup de capital culturel. Et donc aujourd'hui, évidemment, le problème des milieux populaires, c'est qui sont attirés par deux choses, l'abstention, hein, qui est le premier phénomène politique pour les milieux populaires, et puis évidemment l'attraction du Front National. Le Front National, dernière élection régionale, premier tour, les ouvriers, les catégories populaires ouvriers et employés votent à 51% pour le Front National. Front National d'ailleurs qui a un discours aujourd'hui socio-économique assez proche de la gauche d'un certain point de vue sur les thématiques économiques. Et donc, évidemment, le problème aujourd'hui du Parti Socialiste, c'est que les milieux populaires font défaut dans son électorat, mais que finalement aucun autre segment de la gauche n'arrive à les mobiliser. Voilà. Et donc on a une espèce de déshérence des milieux populaires et un dilemme tactique très important pour le PS.
Justement, Marc-Olivier Padis, sur cette question précise que vient d'exprimer Rémi Lefebvre, la question des alliés du PS et ce rôle de représentation des classes populaires et des problématiques sociales, la gauche de la gauche, Rémi Lefebvre le disait à l'instant, n'a pas rempli l'espace laissé libre par le PCF. Comment expliquer finalement ce décalage entre un discours très très à gauche de cette gauche de la gauche et qui ne parvient plus à exprimer justement ses préoccupations sociales.
On attend plutôt de nouveaux partis d'être capables de saisir ces nouvelles configurations sociales instables qu'a très bien décrite Rémi Lefebvre, c'est-à-dire aujourd'hui la transformation des classes populaires. Et je dirais en allant un peu plus loin que lui, les conflits internes des milieux populaires. On ne peut pas aujourd'hui dire simplement le peuple ou le peuple de gauche. Et il y a à la fois des évolutions sociologiques profondes, une espèce de désadéquation de nos catégories sociologiques pour saisir ces situations, mais aussi des conflits internes. On attend plutôt de nouveaux partis politiques, de partis politiques émergents, d'être capables de saisir ces nouvelles colères qui ont des raisons d'être, ces nouvelles considérations, ces nouvelles générations qui ont des aspirations aussi différentes. Or, une des difficultés, c'est comme y a fait allusion aussi Rémi Lefebvre, c'est qu'il y a une fermeture du jeu politique en France. C'est-à-dire que les partis politiques, évidemment, gardent leur mainmise sur le système institutionnel et ferment le jeu. Et un parti comme le Parti des Verts, qui par exemple en Allemagne a pu apporter un certain renouvellement et un renouvellement du personnel, des thématiques, et réaccrocher des électeurs qui étaient loin de la politique. En France, les Verts n'ont pas joué ce rôle-là, et on n'a pas vu de parti émerger capable de se saisir de ces nouvelles attentes politiques. Mais je pense que c'est dû au fait que les partis en place ont quand même énormément fermé le jeu avec, comme on sait, le cumul des mandats, etc.
Rémi Lefebvre, sur le temps long, à quelle période vous pourriez identifier justement cette déconnexion entre la gauche et son électorat traditionnel, cette crise programmatique, si on peut dire, de la gauche? Il y a eu évidemment plusieurs périodes charnières. On pourrait évoquer les suites du tournant de la rigueur de 83, une certaine usure du pouvoir aussi sous François Mitterrand. On se souvient de la phrase, quelques années plus tard, Lionel Jospin, autour de son programme, au moment de présenter son programme pour la présidentielle de 2002. « Je suis socialiste d'inspiration, mais le projet que je propose au pays n'est pas un projet socialiste ». Finalement, c'est quoi le moment où il y a eu cette déconnexion entre l'EPS, son programme, son électorat ?
Ben écoutez, peut-être remonter à une période charnière très intéressante du point de vue de l'histoire de la gauche, qui est les années 70. Dans les années 70, il y a un petit miracle sociologique que réussit à produire l'union de la gauche, c'est l'alliance des classes moyennes et des milieux populaires. Le discours du PS, par exemple, dans les années 70, tient à la fois un discours du libéralisme culturel, féminisme, écologie, lutte urbaine, et en même temps, avec un discours de gauche très ancré à gauche, voire marxisant, défend les milieux populaires. Et donc la victoire de 1981, la victoire historique de la gauche en 1981, portée aussi par l'union de la gauche, même s'il y avait la rupture avec le programme commun, traduit en fait cette convergence des intérêts des classes populaires et des classes moyennes. Aujourd'hui, le problème de la gauche, c'est ça. C'est que la gauche ne parvient plus à unifier les intérêts sociaux des milieux populaires et des catégories des classes moyennes, diplômées, urbaines, voilà, celle que pour titiller un petit peu Terranova avait considéré comme les bobos, l'électorat qui avait vocation à être le cœur de l'électorat de gauche. Et évidemment, cette difficulté, donc ce décrochage, en fait, il date des années 80, 90, il s'est intensifié avec évidemment la pratique du pouvoir qui est toujours difficile pour le PS, parce que évidemment, il va chercher à séduire les milieux populaires pour gagner l'élection, ce qu'a fait François Hollande en 2012. Et puis une fois confronté aux difficultés de l'exercice du pouvoir, et parce qu'il est prisonnier de l'orthodoxie économique, le PS s'éloigne et déçoit les milieux populaires. Et pour évoquer ce qui a été dit tout à l'heure sur la question des groupes sociaux et des partis politiques, moi je pense qu'il y a une réflexion très intéressante qui est menée par exemple par le sociologue argentin Laclos, autour d'une nouvelle réflexion sur le populisme, réflexion qui est aussi reprise par Podemos. C'est l'idée que la gauche, pour se redéfinir, doit adopter un langage plus inclusif, elle doit essayer de produire de nouveaux intérêts redistributifs. Bon, c'est très très difficile, mais autour de la démocratie, autour aussi du partage du temps de travail, de la redistribution des richesses, la gauche doit promouvoir de nouveaux clivages, notamment avec les élites dominantes, les fameux 1% qui captent la richesse, pour unifier des groupes sociaux, même si c'est très difficile aujourd'hui dans une société qui est de plus en plus individualisée et différenciée.
Alors, Marc-Olivier Padis, vous voyez réagir justement à ces propos de Rémi Lefebvre sur cette question justement la question du populisme, la question du programme qui pourrait être celui de la gauche. Une réflexion ?
Oui, non, mais Rémi Lefebvre a raison. Terranova avait sorti une note électorale qui a fait couler beaucoup d'encre en 2011.
C'était en 2011. Effectivement, ce que vous disiez dans cette note, pour rappeler pour nos auditeurs, c'était que finalement l'électorat avait changé. Il y avait une droitisation de la société, et que devant ce recentrage finalement de l'électorat, la gauche devait peut-être s'adresser à ces nouvelles catégories qui étaient les minorités, les jeunes, les diplômés, etc. On avait accusé effectivement Terranova et derrière le Parti Socialiste d'avoir renié ce qui faisait son engagement social.
Effectivement, cette note proposait une sorte de nouvelle alliance électorale autour des valeurs du libéralisme culturel auquel Rémi Lefebvre faisait référence. Aujourd'hui, j'en profite pour dire que moi j'ai écrit dès 2013 un article dans l'État de l'opinion publié par Sofres et Le Seuil, un article où je me distanciais de cette analyse, et Thierry Pech, le directeur général de Terranova, a dit aussi, quand il a pris la direction, que c'était le seul rapport dont il n'assumait pas l'héritage. Donc on a réclamé un droit d'inventaire, donc on prend nos distances par rapport à cette analyse qui a quand même malgré tout été caricaturée, c'est-à-dire elle avait le tort de vouloir segmenter dans la population. La gauche, elle a vocation à s'adresser à l'ensemble de l'électorat et pas à sélectionner des catégories fabriquées en laboratoire pour imaginer des coalitions sociales. Néanmoins, ce rapport avait quand même un mérite, c'était un, de pointer sans concession les difficultés électorales de la gauche, et deuxièmement, de tenter une comparaison européenne qui montrait que, en fait, dans tous les pays européens, les partis travaillistes, sociodémocrates et socialiste était confronté à cette évolution sociologique, c'est-à-dire la transformation de la classe ouvrière organisée. Donc l'affaiblissement de la conscience de classe ouvrière, même la le recul de la part des ouvriers dans la population active, l'augmentation du chômage, toutes sortes d'évolutions. Mais donc la conclusion de tout ça et la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que les partis politiques n'ont plus de clientèle électorale. Et c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que d'avoir une clientèle électorale, ça conduit à un certain cynisme politique qui considère qu'on peut dire à peu près ce qu'on veut et puis de toute façon l'électorat suit. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Dans une campagne électorale, il faut constituer pratiquement l'électorat sur lequel on souhaite s'appuyer. On n'est pas, les partis ne gèrent pas des rentes de situation. Donc ils doivent faire les choses autrement. Mais la difficulté, c'est de revenir et notamment à cette difficulté de la définition aujourd'hui, qui sont les classes populaires. Évidemment, on touche là à une matière extrêmement symbolique pour la gauche, le peuple. Les classes populaires, il y a un historique, il y a un investissement de sens extrêmement, extrêmement lourd. Mais si on le prend au ras de la sociologie, aujourd'hui les classes populaires, c'est un milieu, comme l'a dit Rémi Lefebvre, atomisé, éclaté, hétérogène, et dans lequel il y a aussi des conflits. Rémi Lefebvre disait tout à l'heure, le gouvernement ne travaille pas pour les intérêts sociaux des catégories populaires. Oui, mais quels sont les intérêts sociaux de ces catégories populaires ? C'est-à-dire, je prends juste un exemple pour être clair.
On va laisser Rémi Lefebvre répondre tout à l'heure, mais terminé.
Oui, juste pour finir, entre les employés et les chômeurs, qui appartiennent aux mêmes catégories populaires. Comment définir l'intérêt social commun? C'est très difficile. Et il y a beaucoup d'hommes politiques, notamment à droite, qui spéculent sur les divisions et les affrontements qui brandissent les chômeurs contre les inclus. Et donc, il faut savoir faire. Et aujourd'hui, personne n'a trouvé la bonne équation là-dessus.
Rémi Lefebvre, ce glissement dans le peuple, le changement de peuple, les catégories populaires auraient changé?
Oui, évidemment, mais alors attention, tout à l'heure j'ai dit que les milieux populaires étaient atomisés, beaucoup plus hétérogènes que par le passé. Ça ne veut pas dire que ça ne fait pas sens de parler de catégories populaires. Bon, d'abord, ce qu'on entend par catégories populaires aujourd'hui, c'est, je pense par exemple, le dernier ouvrage dirigé par la sociologue Yasmine Ciblot et son équipe, ils identifient par catégories populaires les ouvriers et les employés. Alors, c'est vrai que ce groupe est hétérogène, mais en même temps, ce groupe, c'est bien ce qui le définit comme groupe, partage un ensemble d'intérêts communs. C'est-à-dire que ce groupe, il est dominé économiquement, socialement, culturellement. Et donc, je suis pas d'accord quand on dit que, au fond, quelles seraient les mesures qui viseraient à défendre les intérêts sociaux de ces groupes. Bah, par exemple, c'est lutter contre les inégalités sociales. Et ça améliorer le pouvoir d'achat, par exemple, de ces groupes. Or, ce qui est très, très intéressant dans ce qui s'est passé depuis 2012, c'est que, depuis 2012, aucun signal fort a été envoyé. À la différence de d'autres moments dans l'histoire de la pratique gouvernementale socialiste, je pense entre 80 et 93 ou à partir de 97 jusque 2002, aucun signal a été envoyé au milieu populaire. On a l'impression que les élites socialistes font l'économie de ce groupe. Et d'ailleurs, je note que, puisque tout à l'heure il était évoqué la question des clientèles électorales, depuis 6 mois, le gouvernement Valls a envoyé des signaux aux instituteurs en augmentant leur salaire, modestement, aux fonctionnaires en augmentant leurs indices. Aucun signal n'a été envoyé au milieu populaire. Tout se passe comme si les élites socialistes avaient fait le deuil des milieux populaires et pensaient que finalement la prochaine élection présidentielle allait se jouer dans d'improbables calculs électoraux au centre droit, hein, alors qu'il y a de fortes chances qu'il n'y ait aucun candidat de gauche au deuxième tour. Et donc, attention, c'est pas parce que les milieux populaires sont hétérogénéisés que le cap d'une politique de gauche vers ces milieux ne peut pas être facilement identifié. Et puis, autre remarque que je voudrais faire par rapport à l'idée qu'il n'y aurait plus de clientèle électorale. Bon, c'est vrai que les électorats des partis sont moins captifs que par le passé, mais je pense que la vocation quand même de la gauche, hein, ce qui définit l'identité de la gauche, c'est la lutte contre les inégalités, c'est la lutte pour plus de justice sociale. Et donc, un des préalables de la gauche, ça doit être de dire comment on mobilise les milieux populaires, comment on obtient leur soutien. C'est aussi un indice de la capacité de la gauche à à émanciper les milieux populaires. Or, finalement, aujourd'hui, alors c'est lié aussi, on n'en a pas parlé, à la sociologie des élites. Hein. Aujourd'hui, au Parti Socialiste, il n'y a pratiquement plus de militants ouvriers, il n'y a pratiquement plus de députés ouvriers. Donc, faute d'ancrage dans ce milieu, on a une espèce d'éloignement des élites vis-à-vis du peuple, à défaut d'employer un autre terme, et qui est un problème aujourd'hui parce que finalement, la gauche y perd son âme.
Choisis pas son enfance, on m'a pas laissé à droitier mon père, m'emmenait jamais au square, mais aux réunions de comité, mon père était tellement de gauche qu'on habitait rue Jean Jaurès, en face du square Maurice Thorez, avant d'aller vivre à Montrouge. La 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 la. Les copains se foutaient de moi tout le temps, car à l'école, au premier rang, j'avais les lunettes de Brejnev et le dentier dans Tupolev. Mon père était tellement de gauche, en 80 il croyait que ça changerait. Je sais pas quelle tête il aurait fait en 2002 en allant voter. Et même si tout ce que je raconte n'est pas tout à fait vrai, le socialisme comme paradis, nous on y croyait. Mon père était tellement de gauche que lorsqu'il est parti, la gauche est partie avec lui.
Les Fatal Picard à l'instant sur France Culture.
Une semaine en France, Antoine Dulster.
Nous sommes toujours en compagnie de Marc-Olivier Padis et Rémi Lefebvre autour de cette question. La gauche peut-elle encore s'adresser aux classes populaires? Et nous recevons un troisième invité, Pierre Jacquemin. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous venez de publier « Ils ont tué la gauche » chez Fayard. Vous avez été le conseiller stratégie de Myriam El Khomri entre septembre 2015 et février 2016. Vous aviez été précédemment aussi conseiller d'élu parisien sous la mandature de Bertrand Delanoë et avant un court passage à la présidence de Radio France. Pierre Jacquemin, votre livre vient de paraître, il tire à boulet rouge hein, sur la gauche au pouvoir actuellement. Vous dénoncez une gauche de posture et d'imposteur qui aurait adopté un discours militant pour gagner des élections avant de mettre en œuvre une politique de droite. Vous décrivez en détail la naissance de cette loi travail rédigée selon vous par des conseillers et des technocrates. On peut être surpris en vous lisant parce qu'on a l'impression que ce que vous dénoncez, cette politique confisquée par des technocrates, ça serait spécifique au mandat de François Hollande. Mais on sait que ce n'est pas le cas, Pierre Jacquemin.
Non, c'est absolument vrai. Je crois pas que j'annonce un événement nouveau en disant que effectivement la technocratie a pris beaucoup de place aujourd'hui dans nos institutions et notamment dans les décisions publiques. Mais je crois qu'aujourd'hui elle est arrivée à un niveau qui pose la question de la démocratie dans notre pays. Et quand on voit la crispation, la colère sociale qui s'est exprimée à travers la loi travail, quand on sait que cette loi travail a effectivement été rédigée par des gens qui ont certes des têtes bien faites, mais qui ont un côté hors sol, et justement précisément la question aussi de savoir quel est le quotidien des classes populaires et comment on répond aux aspirations populaires, c'était une exigence d'un gouvernement de gauche. Et aujourd'hui, cette technostructure qui ne fait que penser que par la contrainte économique, la contrainte financière, la contrainte de dette, la contrainte de l'Union européenne, fait qu'aujourd'hui on a perdu l'orientation politique et l'orientation progressiste qu'un gouvernement de gauche aurait dû apporter justement pour répondre à ces aspirations populaires. Donc c'est en ça aujourd'hui que je dis cette technostructure aujourd'hui ne sert que ses intérêts. Elle sert les intérêts de l'entre-soi. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ce que je cite dans
donc
mon
la politique est morte. Impossible pour une gauche de gouvernement de pratiquer un programme de gauche.
Je crois aujourd'hui que ce gouvernement a cessé de faire de la politique et a laissé le pouvoir politique sur le pouvoir de la technocratie. Et je crois que c'est très important d'insister sur ce point. Ceux qui ont fait la loi travail, puisque c'est de ça dont il est question dans mon livre, ceux qui ont fait la loi travail, et je pointe notamment le directeur de cabinet de Myriam El Khomri, qui est un économiste et qui n'a pas fait les grandes écoles, mais qui est rompu aussi au ministère et à l'exercice de la technostructure. Il a rédigé cette loi contre les orientations politiques qui étaient celles de la ministre du Travail. Donc ça veut dire que le pouvoir, il n'est pas là où on croit, et que l'image de Myriam El Khomri, qui était une image de femme de gauche, a été utile aussi au pouvoir en place. Et ce même directeur de cabinet aujourd'hui se retrouve nommé par le fait du prince à l'inspection générale des finances, qui est un grand corps d'État. C'est ça aujourd'hui la technostructure, c'est-à-dire qu'elle mène des politiques qui sont les politiques qui sont décidées par l'Union européenne, et puis après elle se refile les postes dans l'entre-soi. Et donc aujourd'hui c'est un problème, parce que l'intérêt des Français, l'intérêt justement des classes populaires, il n'est plus aujourd'hui à l'ordre du jour des décisions gouvernementales.
Alors il y a un mot qui revient sous votre plume comme peut-être une anticipation à un des critiques de votre démarche, c'est la publication de ce livre. Vous écrivez « J'ai peut-être été naïf » à plusieurs reprises dans l'ouvrage. Alors, vous venez de la gauche de la gauche, Pierre Jacquemin. Vous saviez qu'en entrant dans ce cabinet, que François Hollande n'a pas été élu pour appliquer ce programme de l'extrême gauche. Pourtant, vous semblez avoir cru que Myriam El Khomri pourrait faire pencher ce gouvernement vers plus de social. Mais vous y croyez vraiment
J'assume la naïveté d'avoir pensé que Myriam El Khomri aurait eu la capacité d'imposer une ligne politique, et qui, je crois, aurait pu imposer un discours de gauche face à l'hégémonisme justement du discours politique d'un Manuel Valls ou d'un Emmanuel Macron très libéral et très assumé comme tel. Et la diversité des sensibilités à laquelle Hollande avait d'ailleurs insisté quand il a composé son gouvernement, aujourd'hui ne s'exprime pas, et c'est là où il y a une vraie difficulté. Et quand j'ai fait le pari, El Khomri, je la connaissais très bien, j'ai milité avec elle, j'ai eu des combats politiques avec elle, on partage de nombreuses convictions, et puis c'est aussi Myriam El Khomri, la ministre de la politique de la ville avec laquelle j'ai travaillé, qui a apporté des plus dans les quartiers populaires, certes avec quelques difficultés, et tout n'a pas été magnifiquement réalisé, mais il y a encore de grosses difficultés et de la précarité dans les quartiers populaires, mais elle a un parcours qui quand même m'a conduit à penser qu'elle allait pouvoir porter cette parole de gauche dans un ministère qui est un ministère quand même hautement symbolique, qui est le ministère du Travail, qui a permis d'avoir des acquis sociaux dans notre pays. Et je ne croyais pas à ce moment-là, certainement pas, qu'elle allait porter une des contre-réformes justement dans ce pays.
Alors vous dénoncez aussi un manque de réflexion intellectuelle sur ce que serait une politique de gauche, et donc justement une rupture avec ce milieu intellectuel. Cette rupture, elle est provoquée par quoi? Par un déficit de pensée. Alors vous avez tenté, on s'en rend compte en lisant l'ouvrage, de proposer des notes de synthèse sur des penseurs. C'est très large, ça va de Frédéric Lordon à Jean Tirole. Fin de nous recevoir de la part des services du ministère. Il n'y a plus de pensée politique dans ces ministères. On refuse justement cet éclairage des penseurs.
Je crois qu'aujourd'hui, il y a, d'ailleurs Emmanuel Valls le dit lui-même, il faut être pragmatique, et c'est aujourd'hui le terme qui revient le plus souvent, nous sommes des pragmatiques, et je crois que c'est ce qui aussi participe de l'échec de la gauche aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui la gauche a totalement rompu avec les intellectuels, et que cet abandon justement du conseil intellectuel, du conseil des chercheurs, des universitaires, ou parfois même d'ailleurs ce mépris quand on entend Emmanuel Valls expliquer que commencer à comprendre, c'est déjà commencer à excuser, c'est ne pas comprendre aujourd'hui ce que veut dire la recherche et ce que veut dire le monde des intellectuels, la sociologie, les historiens, etc., les économistes évidemment. Et aujourd'hui, effectivement, dans les cabinets ministériels, on retrouve des experts qui ont une parole, une expertise sur des sujets qu'ils maîtrisent évidemment, mais qui surtout valident et renforcent la politique qui est décidée au sein du gouvernement. Donc ceux qui s'entourent, les ministres et les politiques qui s'entourent d'experts, ils ne s'entourent en fait que de gens qui viennent confirmer la politique qu'ils proposent.
Marc-Olivier Padis, sur ce que vient de dire Pierre Jacquemin, cette prise de pouvoir au sein des ministères par ce que vous appelez une technostructure, donc les énarques, mais finalement votre réflexion sur ce constat qu'il fait, est-ce qu'un pays qui veut pratiquer une politique sociale est obligé de passer par ces grands corps d'État, quitte à subir ensuite effectivement ces quelques désagréments, cette absence peut-être de pensée, cette absence de programme? Sur ce constat que vient de formuler Pierre Jacquemin.
Mais moi, je lis dans le livre de Pierre Jacquemin deux constats qu'il vient de reformuler, d'ailleurs, avec vos questions. L'un, il y a ce que vous appelez, disons, une caste de technocrates qui se sont emparés de la décision. Et d'autre part, il y a quand même aussi des rapports de force politique au sein du gouvernement. Et dans votre livre, il y a les deux lignes d'argumentation. Et les deux ne se rejoignent pas ou ne s'articulent pas très très bien l'une avec l'autre. C'est-à-dire, il y a des moments où on se dit, en fait, c'est une technostructure qui commande, les politiques ne peuvent plus rien. Et d'autres moments, vous disent, en fait, Manuel Valls a imposé son autorité. Et ce qui ressort plutôt de la lecture de votre livre, enfin, moi, la lecture que j'en ferai, c'est que ce qu'on voit, c'est que cette technostructure, elle est le point où se joue le rapport de force politique entre les chefs de cabinet, etc. Et si je peux formuler une critique, je dirais, j'ai l'impression que vous avez tendance à dire, on ne peut plus faire de la politique, les techniciens ont pris le pouvoir, quand il y a une décision politique avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, dans le fond, parce que ce n'est pas votre ligne politique. Vous avez une ligne politique qui est très affirmée, qui n'est pas celle de Manuel Valls. Et dès qu'il y a un sujet qui ne vous convient pas, dans le fond, vous dites, on ne peut plus faire de politique, les techniciens font tout, etc. Donc, comment est-ce que vous articulez ces deux lignes de
Alors, réponse de Pierre Jacquemin. Ensuite, j'aimerais entendre également Rémi Lefebvre.
Ce que je lis dans le livre, c'est que moi, je n'ai pas un discours énaphobe ou contre la technostructure. Et on a besoin effectivement de gens avec des têtes bien faites qui mettent en place les politiques qui sont décidées par les politiques. Mais à partir du moment où justement, ce sont les politiques qui prennent les décisions. Et ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on a dépolitisé la fonction ministérielle. On a dépolitisé les cabinets ministériels. Moi, mes collègues, certains de mes collègues qui étaient des proches de la ministre au sens ils avaient des convictions et ils étaient porteurs de conseils politiques pour la ministre. Et puis, il y avait une grande majorité des gens qui avaient des compétences techniques, qui venaient souvent d'ailleurs, pour la plupart du temps, de l'administration, et qui œuvraient d'ailleurs dans le dos de la ministre à la rédaction d'un projet de loi qui n'était pas conforme avec les convictions et les engagements qui étaient ceux de Mireille El-Khomri, et d'ailleurs les engagements qui étaient ceux du président de la République. C'est là où je dis qu'il y a un pouvoir de la technostructure qui s'impose sur des personnalités politiques comme Mireille El-Khomri, qui débarque dans un ministère qui est le 8e ministère de ce gouvernement, avec toute la fragilité qui est la sienne, qui n'est pas une experte en la matière. Mais donc, du coup, ce que je veux dire, cette espèce de faux semblant où on nomme des nouvelles figures et de nouvelles générations de politiques à des postes
c'est
de responsabilité.
C'est uniquement ça, selon vous, c'est ce que vous dites dans votre
ouvrage. Final,
on l'a pris pour le symbole qu'elle représentait, effectivement.
C'est ce que je pense.
Son passé militant et
au final,
on prend cette figure qui est différente de celle qu'on attendrait à ce poste, celui du ministère du Travail,
au
pour
final,
faire passer une loi
pense.
Qui est contraire
qu'elle a
aux
servi,
intérêts des travailleurs.
Elle a été utile en termes de. Voilà, elle a un profil plutôt de femme jeune en politique qui a plutôt une image de femme de gauche issue de la ville de Paris en plus où ça a été quand même pour la maire de Paris une espèce de prise de guerre de la part de Manuel Valls, donc du coup elle affiche un côté un anti-Macron ou l'ambition je pense du président de la République c'était aussi d'ici à l'échéance 2017 d'avoir des membres de son gouvernement qui parlent à la gauche, qui justement parlent aux classes populaires, et c'est tout l'échec et mon échec aussi personnel, en tout cas c'est ce que je fais dans le livre, c'est de ne pas avoir réussi comme conseiller politique auprès de la ministre d'avoir justement dit à Mireille El-Khomri il faut que tu imposes la ligne qui était la tienne et celle que tu as validée quand tu as accepté le poste de ministère de
vous, vous écrivez dans votre ouvrage qu'elle a songé à démissionner, pourquoi ne l'a-t-elle pas fait?
Écoutez, moi je crois aujourd'hui que le fait que plus personne ne s'exprime ou que les sensibilités politiques ne peuvent pas s'exprimer aujourd'hui au sein d'un gouvernement, c'est que précisément dès qu'il y a un mot qui est dit et qui ne va pas dans le sens de la ligne du gouvernement et du Premier ministre, il y a des menaces de mise à pied, de mise à la porte. Elle a fait clairement le choix du ministère et du prestige du ministère contre ses convictions.
Apparaît quand même en creux dans votre livre l'image de la ministre Mireille El-Khomri que vous avez servie. On se demande si elle est victime d'un rapport de force qui lui aurait été défavorable, s'il aurait été subjugué par peut-être la figure de Manuel Valls, on ne sait pas trop en vous lisant s'il y a effectivement ce jeu, ce rapport de force entre eux. Qu'est-ce qui se serait passé selon vous pourquoi se maintenir à ce poste si finalement il y a de tels renoncements?
Encore une fois, vous prenez l'exemple de Christiane Taubira, elle a certes mis 4 ans...
Vous ne mentionnez pas, mais dont vous parlez beaucoup dans le livre, effectivement.
Elle a certes mis un peu de temps avant de démissionner de ses fonctions, mais par conviction, et c'est aussi le problème. C'est pour ça que je dis que Mireille El-Khomri a manqué de conviction, a manqué de courage politique de dire publiquement je ne suis pas d'accord avec l'orientation de ce texte. Elle l'a dit d'ailleurs dans des réunions aux partenaires sociaux. Elle avait d'ailleurs obtenu des arbitrages favorables sur ce texte contre le licenciement économique, contre le plafonnement des indemnités prud'homales. Aujourd'hui, enfin d'ailleurs peu de temps après, on lui impose un texte qui prévoit l'inversion de la hiérarchie des normes, les indemnités prud'homales et le licenciement
pas
économique.
Les indemnités.
Non, Non, ah bah, au début, si.
Dans la première version,
elle l'accepte. Donc, enfin voilà, après, c'est elle qui négocie peut-être les 15 jours qui doivent rabais de négociation avec les partenaires sociaux, mais n'empêche qu'elle décide de l'accepter. Alors que 15 jours auparavant, elle disait que c'était pas possible de pondre une réforme comme celle-là, alors que j'avais vendu une réforme de gauche et que le président de la République s'était engagé, quand elle a pris ses responsabilités, à vendre une réforme, enfin à proposer une réforme qui aurait été la réforme sociale de ce quinquennat.
Rémi Lefebvre, vous êtes toujours avec nous en duplex depuis Lille. Je voulais vous faire réagir à ce que vient de dire Pierre Jacquemin. Évidemment, donc son ouvrage raconte à la fois une expérience ministérielle, une chronique un petit peu de ce qui se passe dans les arcanes du pouvoir. On a le sentiment que ce témoignage rejoint un petit peu vos analyses concernant la crise programmatique du PS depuis quelques années. Quel est votre sentiment sur justement cette thèse qui est portée par Pierre Jacquemin?
Bah écoutez, je la trouve tout à fait intéressante. C'est très intéressant d'avoir un témoignage de l'intérieur de la machine de l'État. Moi, je suis pas du tout étonné. Alors, est-ce que c'est nouveau le poids de la technocratie depuis 2012? Ce qui est quand même nouveau, enfin, ce qui caractérise quand même Hollande, c'est un habitus technocratique, un habitus énarchique très très marqué. On le voit bien dans son entourage, la fameuse promotion Voltaire. C'est le retour quand même de l'énarchie. On le voit très très bien avec Jean-Pierre Jouyet, hein, aussi un inspecteur des finances. On le voit bien avec la fascination qu'a exercée Emmanuel Macron sur François Hollande. Emmanuel Macron qui est quand même à l'origine du CICE, qui est quand même le point de rupture très très fort de ce gouvernement. Il y a une domination des élites technocratiques, c'est absolument évident, alors qui témoigne aussi d'une évolution sociologique des élites socialistes, qui témoigne aussi peut-être aussi de toujours ce sentiment d'illégitimité de la gauche au pouvoir, qui a besoin de s'adosser aux experts parce qu'on lui reproche toujours de mal gérer. Donc, il y a une espèce d'hypercorrection gestionnaire qui caractérise la gauche. Et tout à l'heure, il y a été Pierre Jacquemin a aussi évoqué le rapport aux intellectuels et la désintellectualisation. Les deux phénomènes vont de pair. Ces énarques méprisent les sciences sociales, ces énarques méprisent la sociologie, considèrent que la science reine c'est l'économie, et encore dans l'économie pas les thèses pourtant peu iconoclastes de Thomas Piketty, mais les thèses de l'orthodoxie monétariste. Voilà, donc il y a une emprise, il y a l'antisociologisme, hein. Bernard Lahire a consacré un bouquin à l'antisociologie. Il est très très marqué chez Manuel Valls, qui considère finalement que les individus sont libres socialement de s'émanciper. Voilà, donc j'aurais pu évoquer par exemple ce choix hallucinant d'Hollande de garder au début de son mandat Ramon Fernandez, le directeur du Trésor, ultra-libéral. Il y a tout un ensemble de choix qui ont fait que la gauche au pouvoir a été victime et emprisonnée par l'idéologie dominante de ces élites, proches de la finance. On le voit aussi, c'est une caricature ce qu'on voit dans les mouvements des élites, les proches du cabinet de Michel Sapin qui migrent vers les fonds de pension. On a une collusion
objective
aujourd'hui du monde de la finance et du monde de la haute administration.
Ce que vous pointez effectivement a raison, Rémi Lefebvre, ce phénomène qui consiste pour les conseillers ministériels à se recaser avant une élection importante, c'est aussi quelque chose qui est assez classique, qui concerne également les partis de droite avant une élection importante qui est risquée. Voilà, donc c'est quelque chose qui relève des habitudes au sommet de l'État. Heureusement, malheureusement, voilà, c'est quelque chose qui concerne aussi bien la droite que la gauche. Marc-Olivier Padis, vous vouliez également réagir.
Non, je voulais poser une question à Pierre Jacquemin, parce que ce que j'ai regretté dans votre livre, c'est dans le fond, vous dites que Myriam El Khomri a mené une action très réussie et très forte au ministère de la Ville, ce que on est prêt à vous suivre là-dessus, mais dans le fond, vous n'en parlez jamais. Il y a 20 lignes où vous dites, vous parlez des conseils citoyens, etc. Mais vous n'avez pas consacré un chapitre, et le livre aurait été une bonne occasion, parce que par certains côtés vous dites c'est une femme dont j'apprécie beaucoup le parcours, d'un autre moment vous êtes quand même très très dur avec elle, en disant qu'elle a renoncé à toutes ses convictions, et donc c'était quand même une bonne occasion de dire finalement qu'est-ce qu'elle a réussi au ministère de la Ville, et pourquoi est-ce que c'est possible, puisque si on vous suit dans votre lecture, on a l'impression que vraiment rien n'est possible, or vous pointez quand même aussi des succès.
Pierre Jacquemin.
Alors, d'abord, le livre n'est pas un livre sur Myriam El Khomri, ni un livre sur la loi travail. C'est un livre, je crois que, enfin, la loi travail et Myriam El Khomri, ça doit faire un cinquième du livre.
Le livre est vraiment très intéressant de votre ouvrage quand même, parce que c'est votre témoignage, mais effectivement, comment ils ont tué la gauche.
Livre, c'est effectivement de montrer comment la question de la technostructure, la rupture avec les intellectuels, la question de la communication en politique, etc., comment tout ça a participé de l'échec aujourd'hui de la gauche. Mais certes, je le dis dans le livre, et d'ailleurs, quand j'ai quitté le gouvernement, quand j'ai été sollicité pour répondre à des questions de journalistes, journaliste, je n'ai jamais manqué d'expliquer que Myriam El Khomri, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'ai pensé qu'elle serait une excellente ministre du Travail et qu'elle porterait les aspirations populaires au sein de ce ministère pour promouvoir les droits, des nouveaux droits des travailleurs. Mais si je peux me permettre, je voulais ajouter une chose, et toujours sur le même thème, et notamment pour répondre à la question, la gauche est-elle encore en capacité de répondre aux classes populaires? Moi, je crois que tant que l'on ne s'étonnera pas aujourd'hui, ou tant que l'on ne s'étonnera plus aujourd'hui qu'une ministre de la Culture énarque est remplacée par une ministre de la Culture énarque, tant que l'on ne s'étonnera pas aujourd'hui que un ouvrier, une caissière de supermarché, un technicien de surface ou des enseignants ou un aide-soignant ne sont pas représentés aujourd'hui au Parlement et dans nos institutions, tant que l'on ne s'étonnera pas de ça, on ne changera pas la donne justement auprès des classes populaires. Et que donc je pense que la question institutionnelle doit être au cœur de notre réflexion. Bien sûr, la question sociale est la question majeure. Mais tant on ne changera pas, on ne réglerait pas la question sociale tant qu'on ne changera pas nos institutions.
Alors ce constat justement qui est formulé par Pierre Jacquemin rejoint quand même une réalité, c'est qu'on ne les voit plus beaucoup aujourd'hui, ces ouvriers qui auraient monté socialement, qui seraient devenus ministres. Pierre Bérégovoy était peut-être un des derniers grands exemples. Depuis, plus grand-chose, Marc-Olivier Padis, du côté des classes populaires qui, justement, seraient représentées et à l'Assemblée nationale et au gouvernement et dans les arcanes du pouvoir.
C'est ce que je disais tout à l'heure sur la sclérose du système politique dans lequel les partis imposent les choses, mais aussi, c'est un échec de la troisième instance de représentation de la République, qui est le Conseil économique et environnemental, social, économique...
Le CESE, effectivement.
Le CESE. Qui est censé justement être un lieu d'expression beaucoup plus directe de la société organisée, mais aussi de personnalités à part. Et évidemment, il y a des réflexions à avoir sur le Sénat, vous proposez, qui ne joue plus son rôle de représentation, et c'est un moteur de la représentation qui est en panne aujourd'hui, mais aussi le CESE devrait être complètement repensé pour que les forces de la société s'expriment beaucoup plus aujourd'hui dans un organisme qui est beaucoup trop institutionnel.
Et finalement, ce que la gauche paye peut-être, c'est le fait de s'être moulé, Pierre Jacquemin, dans des institutions qu'elle n'avait pas choisies à l'origine. François Mitterrand, il y a très longtemps, parlait de la Ve République comme du coup d'État permanent. François Mitterrand, en tant que président de la République plus tard, s'est un petit peu renié en pratiquant lui-même ce pouvoir discrétionnaire qu'il avait critiqué des années plus tôt. Cette gauche du gouvernement ne serait plus une... Comment dire, aurait perdu cette culture de la contestation, justement. C'est peut-être ça que vous critiquez, vous qui venez de ce camp-là, de la gauche de la gauche.
C'est marrant que vous reveniez sur François Mitterrand, parce que François Mitterrand lui-même avait dit « Je serai le dernier grand président. Après moi, il n'y aura que des gestionnaires ou des comptables. » Je ne sais plus comment il l'avait dit.
Alors, selon vous, il a été président jusqu'en 83?
Oui, et d'ailleurs, c'est assez similaire ce qui s'est passé en 83, c'est-à-dire le tournant de la rigueur, avec aujourd'hui ce que l'on a vécu avec le gouvernement de 2012. Je crois qu'effectivement, alors pour la peine, on avait une énarchie aussi qui était en responsabilité, et d'ailleurs qui est arrivée en responsabilité, parce que un Laurent Fabius, par exemple, qui était contre justement ce tournant de la rigueur avant de prendre ses responsabilités, a fini par être convaincu par ses pairs qui incarnaient tout ce qui avait de plus de technocrate. Voilà. Et donc, du coup, répondre aux injonctions, encore une fois, de dette, de déficit, etc., c'était la priorité en 83. Et aujourd'hui, on retrouve à peu près la même chose. Et en 2012, c'est pour ça que je parle de posture, qui était la posture de François Hollande. Mon ennemi, c'est la finance et l'imposteur. C'était évidemment le candidat à l'élection présidentielle de 2012. C'est parce que il a trahi ses électeurs. Finalement, la loi travail ne devait pas exister, ou en tout cas, elle ne devait pas être celle qui nous est proposée aujourd'hui. Le pacte de compétitivité, la mise en concurrence, franchement, tout aujourd'hui participe du délitement, justement, et de la mise en concurrence des individus, ce qui n'est pas du tout le moteur.
Ce sera peut-être ma dernière question. Pierre Jacquemin, je voulais juste vous faire réagir sur une phrase de Bourdieu que vous citez au début du livre. Il ne s'agit évidemment pas de remettre en cause ou de critiquer l'héritage de Pierre Bourdieu sur cette antenne. J'en serais par ailleurs bien incapable. Vous citez une phrase où il parle de l'habitus de Ségolène Royal en disant cette femme, dans sa façon de parler, sa façon de s'exprimer, dénote un habitus de droite et ça se voit qu'elle n'est pas de gauche. Le mot habitus, effectivement, tout à l'heure, a été employé par Émile Lefebvre, donc qui est bien connu des sociologues. Mais c'est pas possible, quand on a un habitus de droite, y compris quand on s'appelle Ségolène Royal, mais de porter tout de même un idéal de transformation sociale. Est-ce que c'est pas un peu radical, cette distinction que fait Bourdieu et que vous reprenez sous votre plume?
Force est de constater que Ségolène Royal n'a pas porté un projet de transformation radicale de la société. Par ailleurs, je prends effectivement l'exemple de Bourdieu, qui est un échange qu'il a raconté avec Pierre Carl, je crois. Ça n'a rien de très scientifique, mais par contre, effectivement, les outils que Bourdieu a proposés aujourd'hui pour analyser et comprendre les mécanismes sociaux, sociaux montrent que oui, évidemment, on a plus de dispositions aujourd'hui à être de droite quand on est issu d'une famille bourgeoise qu'à être de gauche, et être de gauche quand on est issu d'une classe plutôt populaire. C'est pas, j'invente rien, Bourdieu a très bien expliqué ça, et oui, ça explique un certain nombre de choses, et notamment la culture, ce que je disais justement sur...
Est-ce qu'on est condamné à reproduire aussi un schéma culturel? C'est aussi ça la question.
Oui, bien sûr, je le crois. Je crois qu'aujourd'hui, on est la somme, on est aussi individuellement la somme des gens qui nous entourent, donc forcément, on a tous des prédispositions à être ce que l'on est, et je pense que quand Bourdieu dit, dans les années 80, François Hollande à Tulle, c'est le FN à 20% dans 20 ans, c'est clairvoyant, je veux dire, c'est pas mathématique, mais
c'est votre analyse. En tout cas, merci d'avoir répondu à cette question. C'est la fin de la première partie d'Une semaine en France. Merci à vous trois, Pierre Jacquemin, Marc-Olivier Padis, Rémi Lefebvre, d'avoir participé à ce débat. Successful fella thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, it preys on him. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the food he eats in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking. It's a helping hand that makes you feel wrong as you're blind. Oh, it's a century's remedy for the pain that haunts. Start trying simple. Lives in a house, a very big house in the country. He's got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Says she comes to no harm on the animal farm in the country. In the country. In the country. Blur à l'instant sur France Culture.
Une semaine en France, Antoine Dulster.
Il est 13h32 sur France Culture, c'est l'heure de la deuxième partie d'Une semaine en France. Une deuxième partie qui nous emmène de la ville à la campagne, puisque nous allons parler dans cette partie magazine des néo-ruraux. Il serait près de 100 000 tous les ans à tenter l'expérience du retour à la terre, en laissant derrière eux l'agitation et le stress de la vie citadine. Cette nouvelle vie à la campagne est souvent une révolution personnelle, parfois teintée d'une coloration militante, défense d'une agriculture durable, circuit court, réseau d'AMAP. Alors qu'on ne s'y méprenne pas, ces néo-ruraux d'aujourd'hui sont moins politisés que les pionniers des années 60 qui avaient essaimé en Ardèche et ailleurs. Leur utopie, à eux, est peut-être plus concrète, plus axée aussi sur le développement personnel. Qui sont ces nouveaux habitants des zones rurales? L'engouement pour ce phénomène est-il réellement important? Plusieurs décennies après l'exode rural, peut-on si aisément se réenraciner dans la vie à la campagne? Alors, pour en parler, nous recevons Catherine Rouvière. Bonjour madame.
Bonjour Antoine.
Bonjour, vous êtes chercheur associé au Centre d'histoire sociale du XXe siècle de Paris 1. Vos recherches portent sur ces utopies du quotidien et les rapports ville-campagne. Votre ouvrage, qui est issu d'un travail de thèse, s'intitule « Retourner à la terre, l'utopie néo-rurale en Ardèche depuis les années 60 ». Nous serons aussi par téléphone tout à l'heure avec deux de ces néo-ruraux d'aujourd'hui qui nous livreront leurs témoignages. Mais tout d'abord, Catherine Rouvière, un mot sur le début de cet engouement pour le retour à la vie de la campagne. On le situe généralement dans les années 60. La date retenue est mai 68, évidemment. Est-ce que c'est en raison de l'échec de ce mouvement révolutionnaire que tous ces gens sont partis tenter l'aventure à la campagne ?
Oui, mai 68 donc, a été un accélérateur du phénomène, mais le phénomène est antérieur. On retient quelques précurseurs de cette tendance, à l'instar par exemple de Pierre Rabhi, hein, qui est bien connu maintenant au niveau national, et qui s'est installé donc, au tout début des années 60, 1961, dans le sud de l'Ardèche, par contestation justement du modèle de la société dominante, de ses modes de consommation, de la vie industrielle et urbaine, et donc par souci de vivre en accord avec des valeurs davantage de frugalité.
C'est quelque chose qui était spécifique de ces années des Trente Glorieuses, donc ce rapport à la vie citadine, le stress, le rapport à la hiérarchie aussi peut-être.
Oui, tout à fait. On est dans la période de fort développement du mode de production tayloriste et fordiste, qui fait que le travail est parcellisé, que les travailleurs donc ont du mal à trouver donc du sens à ce qu'ils font. Et il y a justement à ce moment-là cette recherche de quelque chose qui fait sens, qui soit plus créatif qui permette de vivre dans un environnement aussi plus sain, puisqu'on voit se développer aussi beaucoup les transports, ce qu'on appelait alors métro, boulot, dodo. Et donc ce modèle-là est...
Si on se replace justement dans ce contexte des vieilles valeurs gaullistes, on peut le dire, de ces années-là, il y avait aussi à la campagne, pas simplement en ville, des valeurs conservatrices. Les valeurs de la campagne peuvent être proches des valeurs conservatrices. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi... Est-ce que ce n'était pas surprenant de voir aussi tous ces jeunes qui veulent vivre justement une vie de liberté se rapprocher d'un milieu qui, à de nombreux égards, pouvait être aussi un milieu conservateur, la campagne des années 60?
Oui, tout à fait. On est dans une période où il y a une grande opposition et différence dans les modes de vie entre la ville et la campagne. Et la campagne, effectivement, la représentation, on est à un moment aussi où la représentation de la campagne évolue. Pour faire simple, on peut dire que depuis l'industrialisation du 19e siècle, la campagne est apparue comme un pôle de stabilité face au monde ouvrier porteur de révolution et de troubles. Et avec donc les années 60, la campagne est réinvestie en fait d'autres valeurs plus progressistes, on peut dire. Donc il y a un renversement dans la représentation des campagnes.
Alors un renversement, un mot peut-être sur la réception de ces communautés de jeunes souvent qui partaient à la campagne par les habitants locaux à cette époque et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Vous décrivez dans votre livre un choc des cultures qui a eu lieu parfois. Est-ce que cette cohabitation entre les paysans et les néo-ruraux a quand même posé quelques problèmes justement ?
Oui, effectivement, parce que les modes de vie développés par surtout la première vague, donc post-68 tard, étaient très très différents de ceux de la population locale, qui généralement donc avait des valeurs plutôt conservatrices et qui aussi aspirait au mode de développement que précisément les néo-ruraux contestaient. Les néo-ruraux donc avaient connu ce mode de développement et ils en percevaient les limites et les failles et ils étaient dans une contestation de ce mode de développement alors que la population locale aspirait plutôt justement à accéder à ce mode de développement pour être sur un pied d'égalité avec les autres catégories sociales, puisqu'il faut se souvenir que le monde paysan était quand même perçu et se percevait lui-même comme un peu en décalage vis-à-vis, avait un complexe d'infériorité vis-à-vis des autres catégories sociales.
Donc parfois effectivement un choc culturel à l'époque, hein, dès cette époque, vous mentionniez tout à l'heure, Pierre Rabhi, l'une des grandes figures de ce retour à la terre qui s'est installé en Ardèche au tout début des années 60, qui était donc un vrai précurseur. Il a consacré sa vie à l'agriculture durable avec aussi une dimension de développement personnel. Il faut mentionner donc son association, le mouvement Colibri. Cette dimension de développement personnel, c'est une marque de fabrique du retour à la terre aujourd'hui ?
Il y a toujours eu une quête de sens, comme je disais tout à l'heure, dans le retour à la terre. Alors, plus ou moins prononcée, c'est vrai que la démarche de Pierre Rabhi, d'emblée dans sa contestation du mode de développement capitaliste, urbain, industriel, il a plutôt choisi la voie et eu des lectures philosophiques plus liées à la spiritualité. Il ne s'est pas engagé dans le syndicalisme, etc. il a eu plutôt ce versant-là de la contestation et des accents aussi un peu mystiques parfois dans cette contestation, puisqu'il parle beaucoup de la terre-mère. Et donc, son objectif, c'est de changer l'humain, hein, changer le mode de pensée, le mode d'action, changer l'humain pour pouvoir ensuite promouvoir un changement plus global dans la société.
Alors, nous retrouvons par téléphone Linda Bédoué, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes maraîchère et fondatrice de la ferme des Ruffaux à Bouquetot, Normandie. Alors, un mot pour vous situer votre parcours. Vous étiez dans l'immobilier à Paris et vous avez décidé un beau jour de vous reconvertir pour partir à la campagne. 2 ans de formation, je crois, hein, avec des études en écologie et développement durable. Donc, cette nouvelle vie de retour à la terre, c'est tout de même quelque chose qui s'organise, qui se prévoit un tout petit peu.
Oui, même si je ne savais pas en combien de temps j'allais pouvoir avoir cette nouvelle vie, j'ai entamé en tout cas une transition et qui a duré 2 ans. Ouais.
Alors, quel ressenti aujourd'hui après plusieurs années de retour à la Terre, justement, ça fait quelques années. Donc, quel ressenti, quelle vie locale et quelle expérience, quel retour d'expérience vous pouvez faire sur votre transition et votre changement de vie?
Moi, je ne retournerai pas en arrière pour rien au monde. Que ma vie actuelle me satisfait pleinement, que j'ai trouvé le sens que je cherchais dans mon existence. J'avais envie d'être utile, en fait. Le premier déclic, ça a été ça. C'était, j'avais envie d'être utile à ce que le monde soit meilleur pour demain. Et donc, à travers mon métier actuel, je me sens vraiment vraiment citoyenne, vraiment active et militante, et en même temps, pleinement heureuse de mon activité au quotidien.
Alors, je parlais à l'instant du mouvement de Pierre Rabhi, Colibri, ce lien qui est fait entre développement personnel et agriculture durable, mode de production durable, c'est quelque chose que vous vivez au quotidien, j'imagine?
Ah oui, c'est la sobriété heureuse dont il parle, c'est la connexion à la Pachamama, à la terre-mère, c'est cette satisfaction-là à travers les récoltes, à travers les sourires.
Alors, là, Catherine Rouvière en parlait un petit peu, tout à l'heure on disait mystique, c'est vrai qu'il y a cette mystique du retour à la terre, la Pachamama, c'est vrai que dans... En Normandie, c'est pas très local finalement, mais c'est quelque chose qui est vécu par les gens de cette façon-là?
Bah, par moi, personnellement, parce que je suis d'origine péruvienne, donc c'est quelque chose qui est fort symboliquement pour nous.
Alors vous avez cette particularité justement, mais justement, on parlait tout à l'heure de mouvements un peu ésotériques, etc., de mouvements qui accélèrent leur action sur ce retour à la Terre, dans ce que ce retour à la Terre a aussi de personnel, de vécu. Et vous mentionnez la Pachamama, au-delà de vos origines péruviennes, c'est quand même quelque chose qui est frappant quand même, ce mysticisme.
Aussi. Oui, enfin, mystique, pas tellement. Enfin, pour moi, c'est très concret. C'est d'être spectateur, en fait, de la générosité de la Terre, de tout ce qu'elle nous apporte. Au contraire, je trouve ça très concret.
Alors, vous êtes aussi en lien avec ce qu'on appelle les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, les AMAP. Sur place, en Normandie, j'imagine que ça organise tout un réseau, un ensemble de relations sociales, peut-être, qui sont centrées sur ce mode de développement. Les AMAP, ça fait vivre les campagnes aujourd'hui?
Pour nous, c'était essentiel d'être en lien direct avec les gens, puisqu'on le fait pour les gens. Et on avait envie d'avoir une ferme ouverte, donc ouverte au monde, et en échange direct pour pouvoir faire de la pédagogie, communiquer sur le goût, les semences anciennes, faire passer nos messages. Et puis pour la joie aussi des échanges entre humains, qu'on voit aujourd'hui de moins en moins dans le commerce et dans l'agro-industrie. Donc pour nous, c'était important de le faire comme ça et on voit à quel point il y a un écho local. Là, cet après-midi à 14h, on ouvre les ventes à la ferme et on a 50, 100 personnes qui viennent dans l'après-midi acheter des légumes en direct, parler avec nous de la météo, des variétés anciennes, de comment on cuisine. Tout ça, c'est très riche et ça fait vivre. On est le seul commerce au final du village dans lequel on est en commerce direct comme ça.
Alors, je voudrais vous faire réagir, Catherine Rouvière. Dans le témoignage que nous venons d'entendre, on voit beaucoup de similitudes avec ce qui se passait déjà dans les années 60 et que vous décrivez dans votre livre.
Oui, alors si on revient sur les circuits courts, c'est vraiment un apport des néo-ruraux et le mouvement des AMAP lui-même a été introduit en France par des néo-ruraux de la région du Var en 2001, après donc sa naissance au Japon et puis sa circulation en Amérique du Nord et pour revenir vers l'Europe. Mais dès la fin des années 70, il y avait une première expérience qui avait été tentée entre des quartiers populaires de Marseille et puis des éleveurs de la région de Sisteron pour mettre en rapport justement des personnes de ces quartiers populaires consommatrices de moutons et ces éleveurs, et en allant au-delà de l'échange marchand, en faisant en sorte que les enfants de ces quartiers puissent aller passer quelques jours dans la colline et découvrir le monde paysan. Donc à l'époque, les choses n'avaient pas pu aboutir, mais il y avait déjà cette idée dont on peut retracer l'origine dans les années 70.
Alors on voit aussi dans cette description que vous faites des réseaux néo-ruraux une tendance. Alors à défaut de parler de politisation stricto sensu, mais qui est quand même politisée parce qu'elle porte un choix de vie, un mode de vie, est-ce que c'est un projet de transformation de la société qui a toujours derrière ces départs à la campagne ?
Oui, d'une manière plus ou moins prononcée, selon les vagues ou même les composantes de certaines vagues, il y a toujours l'idée que, faute d'avoir réussi à transformer la société par le haut, notamment avec l'échec de prise du pouvoir politique de 68, on va pouvoir le faire par le bas, en commençant par essayer de réaliser à son échelle la société que l'on souhaite et commencer par changer soi-même son comportement, notamment vis-à-vis de la consommation. Et l'agriculture, justement, est un point un peu nodal de ces transformations.
Alors, Linda Bédoué, vous êtes toujours avec nous par téléphone. Par rapport à ce que vient de dire Catherine Rouvière, vous vous décrivez vous-même comme une utopiste peut-être concrète. Est-ce que vous êtes portée par ce propos politique, justement ? Est-ce que vous vous définissez comme quelqu'un d'engagé ? Par votre mode de vie ?
Oui, oui. Militante, engagée, citoyennement. C'est vrai que le mot politique, aujourd'hui, ça fait un petit peu peur, parce que droite-gauche, pour nous, ça ne veut plus rien dire. Mais sur le projet concret de voilà, qu'est-ce que nous, on peut faire au jour le jour pour changer les choses et créer un monde meilleur pour demain, oui. Un vrai projet citoyen, une autre façon de consommer. On appelle d'ailleurs nos consommateurs des consomme-acteurs. Donc voilà, on réécrit les choses avec plus de liens humains. Moins de superficialité. Donc c'est là la sobriété heureuse de Pierre Rabhi qu'on rejoint complètement. Se concentrer sur l'essentiel, en fait.
Eh bien, merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Catherine Rouvière, vous êtes donc toujours avec nous. L'arrivée massive, finalement, de nouveaux habitants dans la campagne pose aussi des questions alors, très concrètes hein, en termes d'équipement, en termes d'infrastructure. Tous ces nouveaux habitants, évidemment, ne sont pas forcément autosuffisants, même lorsqu'ils sont dans des démarches de développement agricole. Au-delà de ce choc des cultures que vous décriviez tout à l'heure, on parle quand même de 100 000 candidats au retour à la terre par an. Ça transforme en profondeur le milieu rural. Vous dites même qu'il y a eu une inversion de l'exode rural.
Oui, oui, oui. Donc on a des villages, des territoires relativement éloignés qui connaissent depuis les années 2000 donc un solde migratoire positif. Et c'est vrai qu'à l'origine donc de ce solde migratoire positif, on peut mettre justement les premières vagues néo-rurales qui, en maintenant donc ces villages qui étaient désertifiés au moment où elles sont arrivées, en les maintenant en vie, ont appelé d'autres arrivées. Et pour prendre l'exemple d'un petit village situé dans le sud de l'Ardèche, près de Lévance, qui est un peu la capitale du retour à la terre, aujourd'hui, seuls 20% de la population de ce village est issue des premières arrivées néo-rurales. Donc ça veut dire qu'il y a eu d'autres apports de gens qui ne sont pas forcément tous dans une démarche de retour à la terre, mais ça a permis justement de revivifier ces...
Et après plusieurs générations, ces intégrations sont réussies. On voit qu'il y a des populations qui arrivent durablement à se réimplanter.
Oui, tout à fait. Et ça redynamise donc un certain nombre de localités en termes de scolarisation, d'ouverture de commerce. Alors évidemment, tout ça, c'est en parallèle aussi avec un peu des services publics qui ont du mal à se maintenir. Mais un des apports très importants des néo-ruraux, c'était aussi l'apport culturel, puisqu'ils ont voulu en fait disposer à la campagne de services qui étaient habituels en milieu urbain. Et donc la ville voilà, est venue par leur intermédiaire, pas seulement, mais par leur intermédiaire à la campagne.
Et bien justement, nous allons parler avec un nouvel invité que nous retrouverons. Vous êtes par téléphone avec nous. Bonjour Xavier Demazenot.
Bonjour.
Alors, vous êtes fondateur, éditeur du site internet thevillage.net et vous avez, vous, déménagé dans l'Orne il y a 12 ans. Alors, ce qui vous singularise, c'est que vous n'avez pas changé de vie, justement. Vous avez plutôt changé de cadre de vie puisque votre activité est centrée sur le télétravail et vous avez fondé une société de conseil aux entreprises dans le secteur de l'internet, puis un réseau de télétravailleurs. Alors, nous venons de parler de développement personnel, d'agriculture durable, de circuits courts. Mais votre cas, vous, est un petit peu à part. Vous représentez justement cette ville qui rattrape la campagne plutôt. Est-ce que vous vous considérez comme un néo-rural aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. On est membre d'une MAP. On vit au milieu de 40 hectares de champs. On est au milieu des agriculteurs. Mais on s'est aperçu, en s'installant à la campagne, que la campagne, c'est pas juste des exploitants agricoles, comme on dit comme ça. Moi, je préfère le mot paysan, mais qui est moins technocratique. Mais il faut voir que l'économie en milieu rural, c'est 50% de services, déjà. Donc, il y a une grande variété de métiers, de gens. Et nous, ce qu'on apporte, avec la maîtrise des métiers du numérique, c'est la possibilité de travailler à distance, c'est-à-dire de vivre là où on a envie de vivre et de travailler avec des clients, des partenaires, même quand on est tout seul, de travailler à l'extérieur de notre territoire où, dans lequel on vit.
Alors, on parlait tout à l'heure de choc des cultures, mais là, c'était plutôt pour les années 60, des populations citadines qui débarquent à la campagne avec parfois justement des différences de culture extrêmement importantes. Est-ce que vous-même, vous avez aussi peut-être ce choc des cultures avec des gens qui n'ont pas peut-être le même bagage socio-économique, pas le même type d'activité? Est-ce que votre activité permet aussi de créer un type de lien social qui serait différent? Est-ce que tout ça, ça crée une société un petit peu différente de la société rurale?
Oui, alors quand on a des métiers très techniques ou très technologiques, évidemment, qu'on soit en ville ou à la campagne, tout le monde ne les connaît pas forcément, ne les comprend pas forcément. C'est à nous d'avoir une attitude ouverte si on a envie de partager avec les autres. Mais on est même allé plus loin. Dans mon village de 340 habitants, j'ai créé un espace de coworking qui est aussi un espace public numérique dans lequel on fait de la formation et de la sensibilisation bénévole pour les habitants alentour. Donc on a des prestations de services, si vous voulez, mais en même temps, on pense que puisqu'on a des connexions très haut débit, puisqu'on a un savoir-faire, des compétences, on peut le partager, et d'ailleurs, on a envie de le partager. Et ce que disait Linda tout à l'heure sur le partage, la création d'un lien social autour de la MAP, autour des producteurs, nous, on ressent exactement la même chose avec la technologie.
Eh bien, merci en tout cas beaucoup. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions.
Je vous en prie.
Je voulais vous faire réagir, Catherine Rouvière, sur cette situation, justement, de la ville qui rattrape la campagne et finalement une ville qui reste connectée. Et on a une campagne connectée aujourd'hui. Est-ce que c'est ça aussi la néo-ruralité en 2016, la campagne connectée?
Oui, tout à fait. Et puis donc le choix de la campagne comme cadre de vie, c'était déjà le cas des troisième et quatrième vagues néo-rurales. Hein. Troisième vague, donc des gens comme Xavier de Masneau qui partaient à la campagne pour exercer leur métier, donc plus en ville, mais à la campagne. Puis la quatrième vague, qui étaient des gens plutôt en fait en précarité sociale et qui cherchaient donc à vivre d'une manière plus facile à la campagne. Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'urbanité, c'est-à-dire le mode de vie urbain, s'est diffusé considérablement à la campagne, et que donc la technologie donc permet aussi l'installation de populations, alors plutôt dans des professions intellectuelles, à la campagne pour travailler à distance.
Est-ce que c'est pas un peu effrayant finalement cette idée que, après tout, la campagne demain va complètement s'urbaniser, devenir connectée? Est-ce que c'est pas aussi une inversion de ce qu'avait été le but recherché par les premiers néo-ruraux dans les années 60?
Alors, être connecté, oui, il y a une urbanisation quand même qui progresse. Dans les chiffres de soldes migratoires, il y a aussi la urbanisation qui joue son rôle. Peut-être que dans ces espaces donc un peu plus éloignés, on peut donc arriver à inventer un mode de vie à la fois mi-rural, mi-urbain, qui faisait partie aussi de l'utopie des premières vagues néo-rurales.
Donc c'est pas forcément en contradiction avec l'objectif utopiste des premiers néo-ruraux. Voilà, en tout cas, il y a une espèce de mélange entre cette nouvelle tendance.
Après, la question est l'impact sur le territoire. Voilà. Donc Quel est l'impact des centres de télétravail ou de coworking sur le développement local? Ça, c'est une autre question.
Eh bien, merci beaucoup. Il est 13h, passé de 52, bientôt 53 minutes sur France Culture. C'est l'heure de la chronique de la République avec vous, Laurent Kupferman. Bonjour Laurent.
Bonjour Antoine.
Alors, nous parlions à l'instant de renouer du lien entre habitants, entre ville et campagne. Votre chronique revient sur l'héritage d'un grand constructeur de liens et un grand républicain, Pierre Valdec-Rousseau, l'auteur de la loi de 1901.
Absolument. Pierre Valdec-Rousseau fait partie de ces grands dirigeants de la Troisième République qui sont tombés dans les oubliettes de l'histoire. Le peu qu'on lui prête, notamment la célèbre formule « républicain modéré mais pas forcément républicain », n'est même pas de lui mais de Laurent Bonnevay, l'éphémère ministre du 7e gouvernement Briand. Alors c'est peut-être dans sa personnalité froide, distante et sa politique raisonnable qu'il faut chercher les causes d'un oubli profondément injuste. Pourtant, Valdec-Rousseau a tout pour être un héros de la République. Ministre du gouvernement de Léon Gambetta en 1879, il forme une vingtaine d'années plus tard le gouvernement qui sera le plus long de la Troisième République. Mais revenons aux faits. Le gouvernement Valdec-Rousseau, nommé en pleine affaire Dreyfus, est constitué de personnalités parfaitement antagonistes. D'ailleurs, qui auraient tout pour se détester, mais qu'un désir puissant rassemble, celui de sauver la République, qui est mise en difficulté par les nationalistes et les monarchistes qui cherchent à la déstabiliser. Valdec-Rousseau réussit donc le tour de force de rassembler le tristement célèbre général et marquis de Gallifet, qui à la tête des armées de Versailles a massacré plusieurs milliers de communards en 1871, et Alexandre Millerand, qui devient le premier socialiste à entrer dans une coalition gouvernementale avec la bénédiction de Jean Jaurès. Valdec-Rousseau a bien conscience qu'il doit agir sur deux fronts, arrimer les armées au destin de la République et avancer sur la question sociale, fermant de troubles passés et à venir. Avec cet attelage ministériel incongru, Valdec-Rousseau doit agir dans un contexte qui est particulièrement délétère. La France est littéralement coupée en deux par l'affaire Dreyfus. Les poussées nationalistes sont telles que Valdec-Rousseau demande au préfet Lépine d'arrêter les meneurs d'extrême droite, parmi lesquels Jules-Napoléon Guérin, antisémite obsessionnel, qui s'enferme plusieurs jours dans les locaux de son journal, provoquant le tragique comique épisode de Fort Chabrol. Valdec-Rousseau ne cède rien et les ligues factieuses sont réduites au silence. Une fois le front politique refermé, arrive une crise économique qui provoque d'intenses mouvements sociaux. Tour à tour, ouvriers du textile, métallurgistes, mineurs, dockers et marins cessent le travail. Mais Valdec-Rousseau est de ces républicains qui ont la fibre sociale. Dès 1886, il déclare que la plus simple tentative d'amélioration sociale est d'un plus haut intérêt que la plupart des problèmes de scolastique républicaine où certains semblent se complaire. Il fait voter avec Millerand une loi qui limite le temps de travail des femmes et des enfants, abaisse la durée du temps de travail de l'ensemble des salariés et nomme à la direction du travail Arthur Fontaine, le futur président du Bureau international du travail. Son œuvre législative, vous l'avez rappelé, sera recouronnée par le vote de la loi de 1901 sur le droit de s'associer qui s'avère être un puissant vecteur pour les activités sociales et citoyennes. Pragmatique, inclassable politiquement, Valdec-Rousseau, qui meurt à 54 ans d'un cancer, laisse derrière lui une rare et profonde certitude à une époque où chacun a le mot « révolution » à la bouche. Il déclare « On ne transforme pas une société d'un coup, elle se modifie lentement et graduellement. »
Merci Laurent Kupferman. C'est la fin de cette dernière édition d'Une semaine en France. J'ai été ravi de vous retrouver à l'antenne chaque samedi du mois d'août. Un grand merci à toute l'équipe pour son aide précieuse dans la réalisation de cette émission. Marie Aubert, Léa Pascoe, notre réalisateur Philippe Baudouin. Merci à Laurent Kupferman pour ses chroniques chaque semaine. Et merci à Jean-Guilain Meige qui était à la technique aujourd'hui.